RMC, l'afterfoot, Nicolas Villas.
En compagnie de Jérôme Roten et de Daniel Riolo, vous venez de le vivre avec nous, le barrage aller Ligue 1, Ligue 2 entre Lens et Dijon, un partout entre les deux équipes. On vous rappelle que le match retour aura lieu dimanche, vous le suivrez là aussi sur RMC bien entendu. On va évoquer...
On suivra surtout France Bolivie.
Ah putain, c'est vrai que je suis con, il y a les deux matchs en même temps. Je trouve que c'est quand même extraordinaire cette histoire.
Ah là oui.
Non mais c'est merveilleux.
C'est pour ça que je l'ai dit, hein, exprès pour que t'embrayes.
C'est merveilleux, dessus, c'est merveilleux. Bon, remarque, cela dit, je sais pas lequel des deux je regarderai.
Tu soulignes cette espèce de programmation étonnante.
Aberrante, ouais. Un peu aberrante.
Même heure, hein.
Ouais, mais 21h les deux, ouais. Ah ouais. Ouais, c'est ça qui est génial, au fait. Vraiment ça, le truc.
Il y a des soirs, tu vois, où à la même heure, on a quand même fait deux matchs de Ligue des Champions, toi, où tu savais pas trop quoi regarder, toi, Barça machin, ou... Là, tu vois, t'as Dijon-Lens ou France-Bolivie quand même.
Ouais.
Du coup, je suis bien content d'être au repos.
C'est une façon de voir les choses.
Ah ouais.
Hier, vous l'avez suivi aussi.
Il faut pas s'étonner, il est dans sa voiture, que ça soit Pierre qui fasse ces matchs-là.
Oh, que c'est sympa. Vas-y, envoie-moi un texto. Ouais.
Bon, répondra. Ouais, c'est bon. Ou à moi.
Je pense qu'il est déjà arrivé.
Non, il est déjà arrivé.
Hier, vous avez vécu aussi la finale de l'Europa League, la victoire de Chelsea, 4-1 face à Arsenal avec un grand Olivier Giroud. Giroud qui réalise une énorme saison, 11 buts pour le Français en Europa League cette saison, qui est pas souvent titulaire en Première Ligue. On va l'écouter, tiens, Olivier Giroud, c'était hier au micro RMC Sport, après cette victoire en Europa League, après cette saison extraordinaire dans la compétition.
C'est vrai que sur le plan comptable, ça fait 11 buts et je crois 4 ou 5 passes décisives, donc c'est très bien, je suis content, j'ai eu beaucoup de temps de jeu en Europa League cette année, j'ai essayé de donner le maximum pour l'équipe et ça a bien marché, on a été récompensé de nos efforts et voilà, je suis content parce qu'on a acquis nos deux objectifs de fin d'année, finir dans Champions League directement par le championnat et gagner cette Europa League, donc... j'allais dire je vais passer de bonnes vacances, mais non, parce qu'il y a l'équipe de France.
Ouais, il y a ce match, et notamment face à la Bolivie. Alors, sachez que Pierre Ducrot, visiblement, n'était pas rentré chez lui, puisqu'il vient de m'envoyer une insulte qui était destinée, Jérôme. On en reparlera tout à l'heure, ouais, après ta petite dédicace. Olivier Giroud, donc, buteur hier. Daniel, tu voulais évoquer le cas Olivier Giroud, que tu retrouves remis en cause de façon trop permanente, finalement.
Oui, en fait, rien de nouveau, en tout cas, dans cette remise en cause, puisque de toute façon, il traîne... je sais même pas si c'est une réputation, mais une sorte de sentiment bizarre autour de lui. Tout le monde est toujours très sceptique quand il s'agit d'évoquer un petit peu ses performances. C'est un petit peu étonnant parce que, franchement, un match où tu vois Giroud et tu le vois mauvais, c'est quand même rarissime. Plus souvent... Il rend la confiance à son entraîneur d'une titularisation. Plus souvent, il est au minimum généreux, combatif et il peut pas ressortir avec l'image du mec qui s'est défilé, qui a pas fait le minimum sur le terrain. Et au mieux, il est très souvent décisif. Il met des buts quand il est titulaire. Il a un bon ratio de ce côté-là.
Il participe au jeu. 70 minutes en Ligue Europa.
Il participe au jeu alors qu'on a trop tendance à le caricaturer et à dire que c'est un attaquant qui joue de la tête et qui fait des remises. Ce qui est faux. Ça fait partie de ses qualités. Mais c'est un mec qui, très franchement, a une technique de pied bien supérieure à la moyenne. On dit qu'il est lent. Bah, pardonnez-moi, mais...
Il est lent.
Ben, je finis la phrase. Mais celui que Chelsea a pris pour jouer à sa place au mois de janvier, Higuain, me semble bien plus lent.
Oui, mais enfin, ça n'empêche qu'il n'est pas rapide pour autant.
J'arrête, Jérôme.
Non, mais il n'est pas rapide pour autant, Jérôme.
C'est pas la principale de ses qualités, mais ouais. Excusez-moi, des attaquants avant-centre pas méga rapides.
Non, après, c'est pas forcément ce qu'on lui demande, c'est un point de fixation. D'ailleurs, c'est ce qu'Hazard avait dit ça de lui il y a quelques mois. C'est le meilleur point de fixation du monde.
C'est un mec qui sait faire des passes, c'est un mec qui a une frappe, c'est un mec qui a un jeu de tête, c'est un mec qui est capable de faire une passe en profondeur, qui est capable de donner un bon ballon. On peut pas transformer ce mec, je sais pas moi, tu sais, le prototype de l'attaquant qui est grand et qui a pour principale qualité d'être grand. Et de jouer de la tête, c'est pas vrai, c'est pas Olivier Giroud ça. Donc il traîne cette décote, je sais pas comment appeler ça autrement, quoi, cette espèce de désamour. Je sais pas comment évaluer en France le regard qu'on a sur lui. Est-ce que c'est 50-50 entre on lui trouve des qualités ou on trouve que c'est un tocard? Moi, je crois qu'il y a un truc qui est à la base du désamour que certains éprouvent pour lui, c'est le fait qu'on le prenne pour un usurpateur, en gros le mec qui a pris la place de Benzema en équipe de France. Moi je trouve que c'est dommage. Parce que dire que Giroud est bon, dire que Giroud a répondu aux attentes, dire que Giroud a fait partie de l'équipe championne du monde et qu'il a mis sa pierre à l'édifice, bah ça veut pas dire pour autant qu'il est meilleur que Benzema ou que Benzema n'est pas un grand joueur. Tout le monde sait que Benzema est un grand joueur. Il se trouve que l'histoire a été celle qu'elle a été en équipe de France, qu'à un moment un mec a fait des choix, que personne n'est responsable de ça, que Giroud n'est pas responsable, que les responsables sont les acteurs, Deschamps, Benzema, leur histoire à eux, ce qui s'est passé. Alors certains peuvent y voir une injustice, un complot, mais quoi qu'il en soit, nous on n'est pas responsables. Et que attaquer Giroud ou dire Giroud c'est une chèvre uniquement pour dans la même phrase rehausser le niveau de Benzema.
Ouais, mais je pense que ça c'est pas très honnête. C'est plus trop l'actualité.
Tous ceux qui tapent sur Giroud, je pense que c'est encore pour ça. C'est vachement pour ça. Ouais. Alors qu'il y a pas lieu de continuer à avec cette comparaison avec enfin il y a pas, on sait que Benzema est à mon sens, mais moi je l'ai dit dès un papier en 2012 je crois, mais évidemment le débat ne sera jamais de savoir quel est le meilleur entre les deux. Il y en a un qui est au-dessus, c'est clair, c'est Benzema qui est au-dessus. L'histoire a fait qu'en équipe de France ça s'est pas passé comme ça. Et que les faits ont fini par donner raison.
Non, mais en plus de dire il est au-dessus ou pas, déjà.
Oui, et puis c'est pas une insulte de l'un pour l'autre, on s'en fout, quoi.
En plus, c'est tellement des styles à l'opposé que comment exactement. Tu veux, au-dessus, sur, en quoi? Sur le ratio occasion-but, techniquement.
Peut-être au niveau des qualités globales.
Mais ouais, mais techniquement, comme tu l'as dit, Giroud, techniquement, il fait des choses, où il
moi,
est.
Moi, je pense que Benzema est supérieur en joueur de
parce
foot.
Parce que c'est un autre profil.
De Giroud de dire ça.
Mais c'est un
Giroud
autre profil.
Est un super joueur aussi, je trouve.
Exactement. Mais Giroud, si tu lui demandes de venir participer au jeu, de venir décrocher, de venir comme quasiment un milieu de terrain pour servir les autres, je pense qu'il va être en difficulté. Après, quand il est plus haut sur le terrain, le rôle d'appui qu'il a, le point d'appui, bien sûr qu'il le fait avec beaucoup d'aisance. Il arrive, malgré tout, quand tu lui mets des ballons face au but, à être assez efficace. Et souvent combatif et dans le duel aérien, dans le jeu aérien, il y en a pas beaucoup qui lui prennent le ballon. Donc ça, c'est un gros côté qu'il a. Mais ça, ses qualités, elles sont là et on en parlait hier. La seule chose qui ferait qu'aujourd'hui les gens ont du mal à voir Giroud comme un top player, c'est parce que le style Giroud te force à jouer d'une certaine façon et que cette certaine façon ne plaît pas à tout le monde et dont toi Daniel souvent tu le dis voilà
quoi la façon en fait le
je truc, sais pas
que moi je pense qu'on peut
en fait
on peut pas s'enfermer on n'est pas obligé de s'enfermer dans un style avec lui
si t'es obligé parce que regarde en équipe de France je vais te dire t'as Giroud le Giroud de la Coupe du Monde oui bien sûr qu'il nous a servi à être champion du monde. Après, excuse-moi, il a pas mis un but pour un attaquant de pointe.
Moi, je pense que c'est pas Giroud qui fait que l'équipe de France joue comme ça. C'est Deschamps qui veut jouer comme ça.
Non, c'est pas Deschamps qui dit à Giroud quand on n'a pas le ballon, tu viens défendre. Il défend plus qu'il doit le faire.
Aujourd'hui, tous les neufs font ça.
Non, mais
défendent comme ça.
Comment vous expliquez
le style Deschamps qui est défensif? Au milieu, t'avais d'autres mecs créatifs.
Mais attends, mais Daniel, avant même de parler de l'équipe de France, juste pour revenir à Chelsea. Comment vous expliquez déjà le fait qu'il ait été titulaire 7 fois en première ligue cette saison et que finalement il soit le meilleur buteur en Ligue Europa cette saison?
Moi déjà je comprends pas ce qu'a fait Sarri, parce que qui a joué à sa place en 9? Explique-moi.
Il y a eu Morata, il y a Higuain, c'est les deux qui ont joué
en fait. Non, t'as eu un moment.
Il y a eu Loftus Cheek, pas vraiment.
Non, t'as eu Eden Hazard tout seul en pointe.
Merci. Oui, il l'a fait aussi. C'est ce que j'attendais.
Non, mais parce que.
Il y a quand même eu des choix.
Après, ça n'a pas été le plus régulier, enfin le plus courant.
Il y a des choix qui ont été étonnants à Chelsea, qui a pas toujours régalé avec son jeu. Est-ce que T'as vu Chelsea un tas de fois.
Oui, c'est pour ça.
Sarri a eu un mal fou à trouver son style de jeu et à mettre en place ce qu'il faisait à Naples. Ouais. On me dira qu'il faut le temps et tout. J'ai aucun problème avec ça. Bien sûr qu'il lui faut du temps. C'est un style qui est particulier. Mais des mecs qui ont occupé la position de neuf, donc dans l'ordre, Hazard parfois, Morata
surtout d'abord,
Higuain quand il est arrivé. Est-ce que franchement ça a été mieux que Giroud?
Non.
Est-ce
non,
que Giroud pas, peut se dire, mais, peut pas se dire, bah tiens.
Mais pas du tout.
Si j'avais joué moi neuf la saison, mais, est-ce que, mais est-ce c'est que logique. Chelsea aurait été moins bon, est-ce que j'aurais mis moins de buts?
Mais c'est logique.
Que les mecs qui ont joué, je suis pas sûr.
Moi. Alors moi, je vais essayer de te répondre là-dessus. Totalement d'accord avec toi sur le fait que, bien sûr, qu'il avait rien à envier à Morata et à Higuain, surtout Higuain depuis qu'il est arrivé. Maintenant, attention, hein, c'est les premiers mois d'Higuain. Peut-être que l'adaptation dans un championnat qui est complètement différent du championnat italien.
Higuain, il est un peu fric.
Mais c'est vrai que les derniers matchs qu'il avait fait à Milan nous laissent un petit peu sceptiques quand même.
Higuain, c'est un
sur,
peu fini,
sur la façon dont il va s'habituer au championnat anglais. Giroud, lui, il se l'est accaparé, le championnat anglais. Hein, ça fait des années qu'il y est. Je te le disais, en Angleterre, souvent, on lui rentre dans le chou, mais il n'y en a pas beaucoup qui lui prennent le ballon dans les duels aériens. Quand il reçoit des centres, il s'impose souvent et c'est pour ça qu'il marque des buts. Il avait un schéma en place, Sarri. Il voulait plus de Morata, il voulait plus de Giroud, donc il avait mis Eden Hazard d'un moment avant d'avoir Higuain. C'est une façon différente de jouer. Tu le sais, et quand je te dis que tu t'adaptes à Giroud, tu dois t'adapter d'une certaine façon. Oui, en équipe de France, si tu joues sans Giroud, tu joues avec Mbappé en pointe et avec Griezmann, je suis sûr que l'équipe de France va être plus haute sur le terrain. Déjà. Je pense que elle va être plus haute parce que ces joueurs-là, ouais, parce que ces joueurs-là vont aider l'équipe à ressortir plus facilement, à avoir plus de possession que Giroud, qui lui accepte de passer des matchs sans trop toucher le ballon, ce ouais. qui était le cas à la Coupe du Monde, et ce qui est le cas par moment à Chelsea. Et Giroud t'oblige, si tu veux. Moi, si demain je suis entraîneur, j'ai une équipe et je me dis. Je vais essayer de faire évoluer mon équipe en passant beaucoup sur les côtés, en dédoublant sur les côtés. Moi, c'était un poste que j'adorais. J'adorais cette façon de jouer. Alors peut-être que je fais un copier-coller avec ce que moi mes sensations dans le jeu. Mais si je passe sur les côtés, si mon but c'est de mettre du surnombre sur les côtés pour faire des dédoublements et arriver à te mettre en situation de centre. Mais je joue tous les jours avec un joueur comme Giroud. Giroud, il te donne. Une solution à chaque fois. Premier poteau, premier servi, comme on dit, Giroud, il est là. Il va se battre. Alors oui, dans le jeu, quand il va avoir du mal dans la construction, eh ben, il va peut-être avoir du déchet, peut-être que oui. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que dans la surface, le joueur surface, je le mets tout de suite.
Tiens, on va accueillir Jean Aurel, qui voulait réagir justement à ce débat. Salut Jean Aurel.
Bonsoir à tous.
Ça va?
Bon, vous allez bien. Oui, je me permettais de vous appeler pour réagir sur Olivier Giroud. Je crois que on vit tout d'abord une période où nous sommes les enfants gâtés du football, où les offensifs savent tout faire aujourd'hui, ont des statistiques stratosphériques. Et effectivement, Giroud rentre pas forcément dans cette catégorie-là, où on le voit pas forcément sur des vidéos YouTube. Cependant, Giroud, c'est la vraie pointe de l'épée d'une attaque. Il arrive à aspirer des défenses, il arrive à créer des décalages, comme vient de le dire Jérôme Rotten. Et puis, il sait être aussi efficace, comme il a été hier. Est-ce que finalement, ce n'est pas ça les prérogatives d'un numéro 9? J'entendais tout à l'heure, je crois que c'est Nicolas Villas qui disait, il n'est pas rapide, ou peut-être moins rapide que d'autres attaquants, mais est-il là pour être vraiment rapide?
C'est ce que je te dis, c'est pas ce qu'on lui demande, c'est un point de fixation. C'est ce que dit Hazard, pas que, hein, mais il fait surtout ça.
En fait, tu vois, pour te répondre, c'est sûr qu'il n'est pas rapide. Moi, ça se voit. Alors, comparé à Higuain aussi dans ce style-là, mais c'est toujours pareil. Ça dépend ce que tu veux. La rapidité de Giroud, moi, j'en ai rien à faire quand il est sur le terrain. Tu le prends pas pour ça. Par contre, ce qui est chiant. Pour une équipe, si tu veux, où elle fonctionne avec un bloc très bas et donc avec Giroud dans cette équipe, ce qu'on a vu à la Coupe du Monde et ce qu'on a reproché souvent à l'équipe de France, c'est de récupérer le ballon très bas et de fonctionner en attaque rapide. C'est sûr que quand Mbappé il récupère le ballon à 40 mètres de son but, Giroud, pour qu'il se retrouve dans la surface, c'est quasiment impossible. Il reviendra jamais. Et donc ça, il faut accepter que, si tu veux. Pour moi, je pense que pour avoir une équipe qui est belle à voir jouer et qui gagne et qui met Giroud dans les meilleures positions et qu'on le jugera pas sur le fait qu'il marque pas de but ou des buts, il faut un bloc beaucoup plus haut, mais un bloc qui passe, une équipe qui passe par les côtés avec des qualités de pied sur les côtés. Si tu joues avec Mbappé d'un côté et un Martial ou un Coman, je peux te dire que Giroud, il va pas marquer énormément de buts.
Tiens les gars, Julien Laurence nous a rejoint également, notre drôle de dame anglaise. Salut Julien.
Salut Nico, salut à tous.
Ça va Julien? Salut, Julien.
Super, ouais.
Alors qu'est-ce qu'on en dit en Angleterre? Parce que c'est vrai qu'on était en train d'en parler il y a quelques instants, mais Giroud, il cartonne en Europa League.
Justement, s'il devait être plus titulaire à Chelsea ou pas.
Et finalement, il joue peu, on prend en PL, ouais.
Ouais, c'est un peu le même débat qu'en France finalement. Quand il était à Arsenal aussi, c'était beaucoup la question de est-ce qu'il, même Thierry Henry par exemple, l'avait massacré en direct à la télévision en disant que c'était pas avec un Giroud que tu pouvais gagner le championnat d'Angleterre. Ça avait été très dur à l'époque et je pense que même Olivier l'avait un petit peu mal vécu. Mais c'était le débat effectivement. Est-ce qu'il a le niveau pour porter une équipe vers le titre? Et c'est un peu la même chose que qu'on vit en France.
Mais là, c'était pareil, Julien. Moi, je me souviens quand on lui préférait en pointe Walcott ou Welbeck. Est-ce que c'est des mecs qui sont meilleurs que lui, honnêtement?
Non, mais par exemple,
est-ce que c'est des mecs avec
des profils différents?
Avec vos profils différents, j'entends bien depuis tout à l'heure. Est-ce que c'est des mecs avec qui tu pratiques un plus beau football, Welbeck ou Walcott?
Non, mais après, ça dépend de ce que l'entraîneur veut mettre en place.
Ok, mais alors, dites-moi. Est-ce que quand il était Arsenal, Wenger, on connaît quand même un petit peu son style, est-ce que ça jouait mieux avec quand t'as eu Giroud, qui en plus a une année a eu un total de buts très intéressant, c'était mieux quand il a changé, qu'il a mis Walcott ou Welbeck? Non, c'était moins bien. Non. Alors c'était quoi? C'était mieux pour le jeu de transition? Est-ce que ça a été bon Arsenal quand ils ont fait ça?
Après,
je crois pas. Non. Est-ce qu'il n'était pas capable également de jouer dans un jeu de possession, Giroud? Oui.
Daniel, si ces entraîneurs là et ça se répète quand même, Wenger, Sarri,
okay.
Conte, oui. L'année dernière.
Oui.
Si ces entraîneurs-là, au bout d'un moment, décident de ne pas faire jouer Giroud pour X raisons.
Ok.
Quand même.
Alors, tu sais ce que je réponds?
Ouais, vas-y.
Je réponds à ça que les trois que t'as cités, quand ils ne l'ont pas fait jouer, qu'ils ont fait
ça
d'autres
pas été
choix,
mieux.
Est-ce que c'était mieux?
Non, mais.
Eh ben, je crois pas.
Mais ouais.
Ce sont des équipes qui n'ont pas offert, en termes de résultats et de jeu, de performances qui font dire oh bah tiens, avec Giroud ça aurait été pire. Très honnêtement,
je vais te répondre. Alors, attends,
t'as raison,
Daniel.
À partir du moment où t'as trois coachs comme ça, tu dis bon bah merde et tout. Ouais. Mais quand ils ont essayé autre chose,
Daniel, alors
c'était pas bon. Hein.
Moi je vais te répondre et par tes propres arguments. Au final, celui qui lui fait vraiment confiance, c'est Didier Deschamps, et t'as été le premier à critiquer son jeu justement. Donc c'est la preuve que quand il joue, c'est pas forcément beau non plus.
Mais
c'est efficace, mais pas forcément
beau. Moi je te redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Je ne crois pas que la cause du jeu.
Mais moi je crois
peu
pas que
attractif des bleus soit la présence de Giroud.
D'accord. Je n'y crois pas. Réponds, je ne crois pas
je
que
crois pas, c'est le style des champs, les milieux de terrain.
Et dans ce cas-là, on peut le reprendre sur ce que tu viens de dire sur Arsenal. Je pense pas que le fait que un Welbeck ou un Walcott ait joué à la place de Giroud, ça ait fait que Arsenal n'est pas forcément bien joué non plus.
Ah mais moi je te dis non, mais attends, moi ce que je te dis c'est que ça ne jouait pas mieux avec ces mecs-là.
Ouais, OK. D'accord.
Dans aucun des cas. Dans aucun des cas. Donc ça pouvait être tenté, on pouvait très bien continuer avec Giroud. Je veux dire, ça n'a pas été mieux quand il a été sur le banc. L'équipe a pas mieux joué, elle a pas eu de meilleur résultat. C'est pas vrai.
Tu sais, en équipe de France, moi, je suis le premier à avoir défendu Didier sur la Coupe du Monde parce que pour lui, c'était cette façon-là qui allait faire gagner l'équipe.
Comme ça, il est arrivé au bout comme ça. Il y a rien à dire.
Non, mais voilà. Donc cette façon était la bonne. Moi, je trouve que dans l'évolution, cette équipe avec les joueurs avec ce titre de champion du monde et puis des joueurs qui progressent quand même, on a des jeunes, je trouve qu'il fallait donner une évolution à cette équipe de France. Alors pour l'instant les résultats sont là, hein, même si ça s'est un petit peu cherché après la Coupe du Monde, les résultats sont là, on attend de voir. Il a pas l'air de changer vraiment ses principes de jeu, mais par contre moi je reste persuadé que il sous-exploite Giroud en équipe de France. Il marque des buts, Giroud. Mais sauf que si tu lui mets des joueurs, par exemple des latéraux, c'est très simple. Je vais pas demander aux joueurs de côté de.
Est-ce que ça jouait mieux Deschamps quand il mettait titulaire Benzema?
Mais non.
Le style est pas mieux. C'est le style Deschamps. Ça dépend pas du mec qui est.
Tu sais, quand tu joues avec Pavard sur le côté droit.
Non, on dit la même chose.
Tu joues avec Pavard et tu joues avec Kurzawa. Excuse-moi de penser que Giroud, il va falloir qu'il attende des miracles, que le ballon lui arrive où il faut. Non, mais c'est vrai, mais c'est la vérité. Par contre, mets-lui un Dubois qui vient d'arriver et mets-lui un arrière-gauche comme Lucas Hernandez ou Ferland Mendy. Eh ben, je peux te dire que là, peut-être que là, Giroud, il va rester dans la surface et il va marquer des buts comme il a mis hier le premier sur le centre d'Emerson.
Jean-Aurel, merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Bonne soirée, à bientôt Jean-Aurel. Salut Jean-Aurel. Tiens, reste avec nous mon cher Julien, déjà parce qu'il y a un débat sur la Ligue des Champions qu'on va ouvrir dans quelques instants. Mais avant, on va accueillir Tariq, alors qui a envie de parler non pas d'Olivier Giroud, mais d'Eden Hazard. Salut Tariq.
Ouais, salut tout le monde.
Salut Tariq.
Ça va Tariq?
Ça va et vous?
Bah écoute, ça roule.
Bah en fait, je voulais parler d'Eden Hazard. Je voulais soulever un petit débat qui n'a été étonnamment pas soulevé par Daniel plus précisément, parce que je vais reprendre des exemples qu'il a l'habitude de faire sur le niveau réel d'Eden Hazard. on sait qu'il va aller au Real Madrid pour plus de 100 millions d'euros. Et en fait, je voulais vous demander, est-ce que pour vous, il n'est pas, on va dire, un petit peu surcoté ? Peut-être que le mot est fort, mais est-ce que pour vous, c'est vraiment un top player ? Parce que hier, en regardant la finale, en fait, je me suis posé la question, avec la grande finale qu'il a fait, il n'y a rien du tout à dire sur la finale qu'il a fait, sur le niveau qu'il avait hier. Mais est-ce que vous avez en tête un match de ce niveau-là d'Eden Hazard en Ligue des Champions, par exemple ? C'est la plus grande compétition qu'il y a, même en termes de niveau de jeu au-dessus de la Coupe du Monde.
Écoute, moi, je réponds avant Daniel sur le... Moi, je te dis que Eden Hazard, il fait partie du top 5 mondial.
Après Ronaldo a le même avis que toi.
Après
Ronaldo le Brésilien.
Ouais. Il fait partie parce que franchement les premiers appuis qu'il a quand il prend le ballon, il est capable d'éliminer qui veut, même s'il est serré de près. Il a une faculté à se retourner, à se retrouver face au jeu qui est hallucinante. Et après, il est capable de tout. Il est capable de finir tout seul. Il est capable de donner les ballons de but.
Mais
parce
Jérôme,
qu'il en donne beaucoup.
Je suis d'accord avec toi. Et techniquement, il est hors norme. Mais avant Hazard, je peux juste citer. Tu prends en mémoire des grands matchs de Ligue des Champions, par exemple.
Non, je comprends ce que tu veux dire. Tu veux que je t'aide,
Tariq. Même Gareth Bale qui veut le virer au Real Madrid. Il y en a plein qui deviennent en tête des joueurs avant lui. Et je trouve qu'on soulève pas assez cette question-là.
Ouais. Non, là où il a raison, Tariq. En fait, je vais essayer de continuer ce que tu dis. Le talent, ce qu'il fait avec un ballon, on est tous d'accord. T'as raison. Maintenant, là où je te suis, c'est qu'effectivement, toutes les années à Chelsea n'ont pas permis de voir Hazard. Si on faisait le jeu des chapeaux, dans le chapeau 1, dans le sens où Hazard, on va dire que c'est l'attaquant, tu sais, quand on faisait les chapeaux, c'est un 7-11, et que dans ce groupe-là, qui ont fait des matchs de Ligue des Champions ou qui ont prouvé, on va dire, au top niveau, bon, évidemment, t'as Messi, Ronaldo, t'as les deux gars de Liverpool, t'as les deux du Bayern avant qu'ils vieillissent, donc Robben Ribéry, t'as ceux de City. Tu vas en mettre bout à bout quand même pas mal. Griezmann à Atlético, tu vois. Et si c'est ça ta réflexion, si je te comprends bien, Tariq, oui, ça c'est un constat. Et c'est pour ça que il a peut-être tardé à bouger de Chelsea, qui ces dernières années a peut-être été un petit peu moins ambitieux.
Ou d'ailleurs, il a pu être frustré, hein, parce qu'on se souvient des rapports avec Conte, etc.
Avec Mourinho, il disait,
Conte l'en avait marre aussi, hein.
Tout. Ouais. Maintenant, son talent, qui à mon avis est indéniable, et vraiment, je trouve que c'est un gars qui a un potentiel énorme, à la Coupe du Monde, Tariq, soyons justes, à la Coupe du Monde, il a fait des matchs extraordinaires.
Maintenant, t'as raison.
Écoute, il va aller au Real, ils vont être en Ligue des Champions. Le rendez-vous est là maintenant pour lui.
Mais
hein.
Ou là j'ai envie de vous répondre sur les matchs de Champions League. Déjà il en a fait des beaux. Alors après ça me vient pas comme ça parce que Chelsea en effet est pas l'équipe qui a marqué le plus l'histoire de la Champions League ces dernières années. Et quand tu élèves ton niveau et c'est logique en Champions League, il faut aussi que ton groupe, le groupe qui est avec Eden Hazard, même s'il peut faire des différences tout seul, il faut que l'équipe elle élève aussi son niveau. Et il est aussi dépendant du niveau des autres.
Oui, mais c'est pour ça qu'on attend qu'il aille au Real et que c'est vrai qu'à Chelsea, les deux, trois dernières années, il n'y avait pas autour de lui de dynamique.
Déjà, cette année, il la faisait pas, il faisait l'Europa League. L'Europa League, il l'a joué sans la jouer parce que ça a beaucoup fait tourner.
Sur la finale hier, il est extraordinaire.
Mais il est extraordinaire et c'est là qu'on attend les grands joueurs. Moi, ce que je retiens, c'est que depuis qu'il est arrivé à Chelsea, il y a eu deux titres en 2015 et en 2017 avec deux entraîneurs différents. Et s'il a été élu par ses pairs meilleur joueur de la saison, c'est qu'il avait un rôle essentiel dans ces titres-là, et que tu gagnes pas un championnat avec autant de louanges sans avoir énormément de talent, et surtout deux années de suite avec deux entraîneurs différents, encore une fois. Donc rien que pour ça, et puis je te dis, moi je vais au stade, on s'aperçoit plus quand t'es au bord du terrain. Des différences qu'un joueur peut faire et nous les anciens joueurs, on se rend compte de la difficulté quand t'es sur le terrain, de la vitesse de jeu, de la rapidité, de l'exécution, la qualité technique. Pour tout ça, il fait partie du top 5 parce que j'en ai vu un tas des joueurs. Vraiment.
Top 5, tu dis?
Ah ouais.
Mais dans quelle position? Les mecs de côté?
Oui.
Avec ceux que j'ai cités avant, tu peux pas dire top 5.
Qui t'a cité?
Messi, Ronaldo, les deux de Liverpool. Ouais,
Ronaldo qui
les deux
Cristiano
de Liverpool pour l'instant.
Cristiano.
Ah bah oui, oui, il joue plus l'autre, hein.
Ouais, Cristiano, mais Cristiano aujourd'hui,
Cristiano, Messi.
C'est différent, c'est, pour moi.
Ah mais moi, je te dis, les attaquants qui sont pas neufs, les 7-11, on va ouais. dire. Bah, t'as les deux de Liverpool,
Sané, Salah.
Mané, Salah. Voilà, les deux
mais
Liverpool.
Mané, Salah. Non, mais vous les mettez devant, ils sont exceptionnels.
Bah, moi,
mais quand même, en termes de régularité, Eden, ça fait des années qu'il est là.
Salah, il est pas mal aussi, en ce moment. Je te parle là, à l'instant T.
Salah et Sané, là, depuis, si eux, ils sont pas forts en régularité, tu veux quoi?
Mais ça fait Salah, ça fait 2 ans et demi, aller avec son année à Rome.
T'as mon avis là-dessus, Julien, toi.
Au présent.
Moi, je te dis qu'on
est à l'instant T, là.
En qualité de joueur, en qualité de pied, en qualité technique, je te dis que Eden Hazard est supérieur à Mané.
Mais non, mais moi je veux bien, mais à un moment, t'en as un qui va faire une deuxième finale de Ligue des Champions.
Mais tout le temps super fort. Mais comme je te l'ai dit, c'est un collectif.
Pour l'instant, il
c'est un
pas.
Collectif. Julien, tu crois que si tu mets Mané à Chelsea ou tu mets Salah à Chelsea non. et il l'a été c'est Salah à Chelsea.
C'est pour ça. Écoute, c'est pour ça, Jérôme, que l'autre va aller au Real.
Mais oui.
Non, mais même Tariq avait raison. Même un mec comme Gareth Bale qui est plus footballeur, qui est golfeur maintenant. Le mec sur les dernières années, même encore l'année dernière sur la finale quand il rentre, il est dingue.
Mais arrête,
Gareth Bale, c'est au-dessus.
Mais non.
Au-dessus de qui de Hazard?
Hazard, mais
non,
ouais.
Non, attends, non, on non, dit à l'instant non, T, non. et là tu me mets Bale devant Hazard
non,
aujourd'hui.
Ça fait deux ans.
En ce moment, depuis même 2 ans.
Aujourd'hui, là, maintenant.
Même depuis 2 ans.
Non, mais franchement, qu'il était dans une équipe qui gagnait depuis 2 ans, Daniel. Mais tu peux pas me dire que Gareth Bale, il est au-dessus d'Eden Hazard.
Alors, je précise. Là, en ce moment, non, parce que l'autre ne joue plus.
Mais même
depuis
il y a
deux ans, Daniel.
Non, c'est pas vrai.
Mais ah bah si, depuis 2 ans, Daniel.
Mais Bale, il a fait des matchs. Ouais. Vous êtes fous, Bale. Remarque, il a fait des matchs de malade.
Il y a eu la Champions
League. Mec, il gagne dans toutes les campagnes Ligue des Champions, il est décisif.
Mais Bale, dans les équipes de Chelsea, que Eden Hazard a eu, et voit ce qu'il fait en Champions League.
Bale, à l'Euro 2016, le Pays de Galles, il te les emmène tout seul quand il a envie. Quand il a envie de jouer au foot, ce mec-là, il est là.
Il les emmène, le Pays de Galles.
Mais non,
tu joues avec des bouchers derrière. Quand il a envie
de jouer au foot, mais c'est une bombe, le gars.
Ouais, non, mais...
Sauf qu'il a... Ah non, la
Julien Laurence, Julien, s'il te plaît, un mot, s'il te plaît.
Pour moi, personnellement, qui ai vu jouer Eden presque tous les week-ends depuis 7 ans, c'est un génie absolu, il n'y a aucun doute là-dessus. Qu'il soit dans les top 5 ou top 10, ça c'est un débat et chacun aura son opinion, mais sincèrement, c'est un génie. Et ce qu'il faut juste regarder, c'est vrai qu'en Ligue des Champions, ça n'a pas toujours été une réussite pour lui, mais je suis d'accord avec Jérôme. T'es aussi vachement dépendant de ton collectif.
C'est un génie qui est pas fort dans les gars, tu peux pas dire ça.
Tu peux pas dire non, ça que lui est fort avec les faibles et faible avec les forts. Ah non.
Bah donnez-moi la liste des mecs des gars qui sont à son qui sont pas plus forts que lui là, allez-y là. On va citer tous les 7.
Laisse-moi juste finir Daniel. Laisse-moi juste finir. Cette saison en première ligue, c'est 16 buts, 15 passes décisives. Le dernier joueur à avoir fait plus de 15 buts et plus de 15 passes décisives dans la même saison, c'est Thierry Henry il y a 15 ans. C'est pour te dire à quel point c'est rare ce qu'il a fait cette saison, ce qu'il a effectué dans une équipe.
C'est un joueur que j'aime beaucoup. Je vous dis que je répondais à Tariq. Au niveau top Ligue des Champions, pour l'instant, il lui manque encore la référence.
Non.
Il lui manque le tampon. Mmh. Le tampon Salah et Sadio Mané l'ont.
Oui, mais ils l'ont grâce au collectif. Je suis désolé. Encore une fois. Mais ouais. Mais regarde les stats de la saison d'Eden Hazard. En plus, c'est quelqu'un qui se cache pas et qui joue à plusieurs positions, qui ferme sa tronche. Et qui est performant, qui arrive même dans un rôle de numéro
1. On finit le débat dans quelques instants. Pour finir, Daniel.
La polémique là-dessus, parce que c'est un super joueur.
Bah voilà.
Donc on est en train de débattre.
De toute façon,
c'est un mec qui est extraordinaire. J'adore.
On remercie Tariq.
Son transfert au Real.
Ou pas, parce que Tariq,
merci Tariq.
Son transfert au Real.
Bravo pour la qualité de ton débat.
Vraiment révélateur.
Mais oui, mais.
Et Julien Laurence reste avec nous dans quelques instants. On va se projeter, notamment sur la finale de la Ligue des Champions. Doit-on s'attendre à un match déséquilibré? Tiens, parce que ça a été le cas finalement hier, en finale d'Europa League entre Chelsea et Arsenal. Et puis on se posera la question savoir si
il va nous donner son
doit jouer
comme
ou pas
à l'inverse
face aux Reds. Effectivement, la réponse juste après ça.
RMC l'Afterfoot, Nicolas Villas
en compagnie de Daniel Riolo, de Jérôme Bretagne et de Julien Laurence.
Oh la vive.
qu'est-ce qu'on lui met à la Ligue 1?
Oh, ça va un peu corse. C'est vrai que là il y a un peu un mélange. Hola vive.
Comme on dirait là-bas. Et alors, pour tout mec.
Jean Loulec.
Fini les paillotes, tout ça maintenant.
Ah non, c'est Jean Loulec.
Hier, on a vécu la finale d'Europa League, victoire de Chelsea 4 buts à 1 face à Arsenal. Et alors mon Julien, la question que tu te poses toi et qu'on va te poser également, c'est est-ce qu'on doit s'attendre à une finale de Ligue des Champions ce week-end entre Tottenham et Liverpool, déséquilibrée là aussi?
Alors déséquilibré, je pense pas, non. On l'a vu en championnat, notamment dans les deux confrontations, celle à Wembley et ensuite et celle à Anfield, où Liverpool s'était certes imposé les deux fois, 2-1, mais dans un match qu'ils avaient plutôt dominé en première période avant que Tottenham revienne très bien après la pause et domine les secondes périodes. Donc je pense que ce sera encore un match équilibré. C'est sûr que Liverpool est légèrement favori parce que. Pardon.
Le dernier Liverpool Tottenham, ah oui. C'est Lloris qui offre le match.
Attends, il y a une stat, on a regardé sur les 14 dernières confrontations entre Tottenham et Liverpool, toutes compètes confondues, il y a une victoire pour les Spurs, hein, seulement.
Ouais. Non, mais je parle du dernier match parce que c'est celui qui avait fait beaucoup parler.
Il y a eu deux fois
Tottenham, on relâche le ballon. Ouais.
Tottenham en contre a raté une tonne d'occasions, ouais, pour tuer, ouais, Liverpool, et à la fin c'est Lloris qui donne le match. Celui-là, c'est le dernier. Si je me
trompe
pas,
effectivement, ouais.
C'est le dernier celui-là. Bon, on peut pas dire qu'il y avait un écart dingue, hein.
Non, c'est
mais
pour ça.
Mais tu vois pourquoi aussi. Une vraie emprise sur le match, ça c'est vrai.
Ouais, mais c'est vrai. Anfield.
Oui. Ce qui était très intéressant dans les deux matchs, on en parlait cet après-midi avec Jérôme chez Dugas, c'est qu'à chaque fois, Pochettino s'est trompé dans son organisation tactique au coup d'envoi, au début de match, avant de rectifier à la pause, de changer de système et notamment de passer souvent en 4-2-3-1, où ça posait beaucoup plus de problèmes à Liverpool.
Qu'est-ce qui était pas bien, tu peux rappeler?
Donc il avait fait jouer une défense à 3 et deux joueurs en pointe à Anfield, justement, et ils avaient pris le bouillon au milieu de terrain, dans la largeur, ils avaient pris le bouillon complètement, et c'est vrai que cette première période, elle avait été en sens unique pour Liverpool, avant que Lucas égalise en seconde période, avec le réajustement tactique, et donc que l'erreur de Lloris en fin de match coûte au moins le match nul à Tottenham. Et à Wembley, son 4-4-2 avec un milieu de terrain en losange avait pas du tout fonctionné non plus la première défaite, donc 2-1. Et puis il avait encore une fois changé à la pause.
Ouais, et puis c'était pas du tout les mêmes. Moi, je l'avais commenté ce match-là à Wembley. Déjà, il s'était trompé, il avait changé, et puis ses hommes forts aujourd'hui étaient même pas là. Ouais. À Wembley, il manquait, si je me rappelle bien, il manquait Ali, il manquait Sissoko, qui était pas encore vraiment dans les plans de Pochettino au mois de septembre. Et donc, bon, ce match-là, tu peux le mettre de côté, mais mine de rien, même en se plantant, ce match-là, c'est même Tottenham qui leur avait offert. Ils avaient fait deux énormes erreurs. Ils avaient pris deux buts, ils étaient revenus sur la fin du match. Mais il n'y avait pas tant d'écart que ça, quoi. Et moi, le match à Anfield, où on connaît la difficulté de jouer contre Liverpool dans leur stade, parce que il y a un impact qui est tellement énorme que c'est difficile pour les équipes de rivaliser avec Liverpool. Et s'il n'y avait pas eu ces erreurs aussi, et dont celle de Lloris, eh ben Tottenham aurait pu faire un résultat. Donc c'est pour te dire que sur un terrain neutre comme ça, en plus sur une finale, en plus que Liverpool, ils en ont perdu une l'année dernière, et que psychologiquement, c'est pas facile à préparer celle-là. Bah,
Klopp, il en a perdu quelques-unes des finales.
Ouais, en plus, il l'a perdu, et puis surtout, il y a le poids, mine de rien, il faut une saison incroyable, tout le monde leur dit. Et ça, même si tu coupes les télés, les iPhones et ce que tu veux, les réseaux sociaux, ils le savent, que tout le monde met en avant le mérite de Liverpool, sa façon de jouer, cette combativité, ce club qui est fantastique. Mais sur cette finale, tout ça, ça sera oublié, quoi. Et
la seule différence par rapport à l'année dernière, c'est que l'année dernière, ils étaient pas favoris contre le Real. Ouais. Ils sont allés.
Et tu penses que c'est
ils sont
mieux,
allés sur cette. Ils sont allés sur cette finale en se disant ça va être compliqué, et Klopp le rappelait cette semaine en disant mais l'année dernière, si on regarde bien le match, on perd Salah très tôt alors qu'il y a un partout.
Bien sûr.
Il y a ce retourné acrobatique de Bell qui peut retenter encore 100 fois et qui mettra plus jamais, et que finalement selon Klopp,
Carlus qui a fait les boulettes, ouais, énormes ici.
En plus, et Carlus qui fait sa boulette alors qu'il y a aussi la commotion cérébrale.
Mais tu sais,
Klopp disait cette semaine, et ça c'est son avis à lui, que finalement la saison dernière, la défaite 3-1 contre le Real, le match, il joue pas à grand chose finalement. Et ouais, c'est vrai qu'il a peut-être raison. En revanche, cette année, ils sont favoris. Tout le monde les voit gagner, que ce soit leurs supporters, leur équipe, leur entraîneur, mais aussi les médias anglais. Et ça va être différent à gérer de l'année dernière où vous arrivez vraiment en outsider.
Moi, je vais te dire, et ça, c'est mon expérience qui parle. Alors après, c'est peut-être pas le cas de tous les anciens joueurs, encore une fois. Mais à chaque fois que moi j'ai préparé des finales, et j'en ai fait quelques-unes. Quand tu te sens dans la peau de l'outsider, pas celle de favori. Tout le monde te dit ça va être difficile. C'est là que tu arrives à avoir des forces collectives supplémentaires et en général tu te transcendes plus facilement. Quand t'es favori, il y a une façon de gérer qui est différente, l'approche aussi. Et on sait très bien que sur les finales et encore plus sur une finale, la plus belle des compétitions, la Champions League, les jours là qui précèdent ce match sont pas faciles. Et je pense que si Liverpool se voit trop favori, il risque de vivre une grosse désillusion.
Tiens, on va accueillir Jordan, supporter de Liverpool, qui nous a appelé au 32-16. Salut Jordan.
Salut l'équipe, salut tout le monde, salut Jérôme, salut tout le monde.
Salut Jordan.
Salut Jordan.
Comment tu l'appréhendes cette finale, toi, Jordan, finalement? Alors, et ce fameux statut de favori qu'on évoquait il y a quelques instants pour Liverpool?
Alors, statut de favori, oui, je suis d'accord, hein, parce qu'on va pas se cacher, on est favori pour cette finale, mais bon, après, on l'a démontré aussi bien en championnat qu'en Ligue des Champions, Liverpool n'a pas la grosse tête. On n'a pas la grosse tête quand on affronte, que ce soit une petite équipe, que ce soit le 20e du championnat ou le 2e, on affronte les matchs de la même manière. On change pas de dispositif, on reste pareil, on reste en place, même quand on perd 1-0 ou 2-0, on construit le jeu, on s'affole pas, et c'est la grande force de l'équipe cette année. Et je pense qu'on peut faire très mal à Tottenham dans cette finale.
Et donc tu dis on, toi, quand tu parles de Liverpool?
Ce sont l'équipe.
Je dis on. Je dis on parce que voilà, c'est pour moi Liverpool, c'est tout. Je me suis marié hier à la mairie et je suis rentré sur You Will Never Walk Alone, pour vous dire.
Sans déconner. C'est bon, ça.
Non,
c'est
vraiment,
énorme.
Vraiment.
Je et d'où ça vient, ça?
You Will Never Walk Alone.
Et d'où ça vient, ça, d'être sub de Liverpool?
Depuis petit, j'ai 30 ans et je suis le foot depuis tout petit et c'est surtout cette finale de 2005 qui m'a marqué, même si je suivais Liverpool avant. Et cette finale de 2005, comment ne pas tomber amoureux de cette équipe, franchement.
Tu me diras, les paroles, elles vont bien avec un mariage, hein.
Et jamais.
Elles vont bien avec un mariage. Hein.
Jamais chez toi, t'avais pas des gens, tes parents aimaient pas le foot pour te guider vers une équipe française et tout, non?
Non, si, mais mes parents, mes frères, ils sont supporters de Paris, mais voilà, j'ai choisi Liverpool, ça s'explique pas, c'est le cœur, et aujourd'hui, je suis à fond derrière, je suis abonné en field, je suis ici un supporter de France à la French Branch.
Non, on te sent vachement impliqué. Un jour, on devrait se poser la question pourquoi la France est le pays où tu as le plus de Français, donc, qui supportent des équipes étrangères. C'est typique de chez nous. Je pense pas que dans une émission en Angleterre,
c'est vrai.
Julien t'entende des
mecs. C'est vrai souvent sur d'autres continents également. L'Afrique, l'Asie,
oui,
les clubs anglais ont une grosse cote dans ces pays-là également.
Alors après, c'est pas interdit d'avoir.
Non, mais moi je parlais pays d'Europe, mais même au Portugal, je crois pas que tu fais une émission le soir, t'as des mecs qui téléphonent, ils supportent les équipes anglaises, allemandes, espagnoles, comme nous, chaque fois, l'after, il y a 1000 mecs qui téléphonent, ils supportent les équipes étrangères.
Après, t'as un monopole sur les grosses équipes au Portugal.
Tu peux.
Ouais, mais bon, c'est comme ça.
Tu peux aimer le foot, tu peux aimer une équipe en France.
Moi, j'ai une explication.
Supporter une équipe en France et te dire, tiens, en Europe.
La question n'est pas tu peux ou tu peux pas. Évidemment, tout le monde peut ce qu'il a envie. Je te dis que c'est une particularité de notre
mais
foot.
Mais tu sais pourquoi je pense. Alors, on va pas faire le débat.
Est d'une pauvreté extrême.
Oui, mais il y a au-delà de ça.
Par exemple, tu prenais historique et t'as pas de transmission de. T'as pas de transmission d'amour du club.
Le fait.
Deux éléments déjà.
Il y a ça. Mais le fait, par exemple, tu prends l'exemple de l'Espagne et du Portugal. T'as une grosse politisation de ces clubs-là. Et par exemple, le Portugal, le football au Portugal, c'est beaucoup construit sous la dictature. Et ça a été un moyen de détourner également l'attention de la population. Et les trois gros clubs ont été très politisés, très impliqués politiquement, d'ailleurs positivement ou négativement, sous la dictature. Et ça a fait que ces clubs ont pris une importance qui a été considérable également.
Très bien. En Italie, tu vas difficilement trouver un tas de gens qui supportent des équipes anglaises ou espagnoles. Tu vas pas trouver avant en Italie, trouver un supporter du Real ou du Barça, comme ici, les dizaines qui nous téléphonent, tu vas falloir te lever de bonne heure quand même.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça
a
instauré des habitudes et une culture.
Oui, mais c'est une culture qui nous est propre.
Oui, oui.
Bon, ouais. Voilà.
Après, tu sais, des fois, il y en a qui s'inventent supporters d'une équipe pour passer à l'antenne. Hein.
Ouais, voilà, je pense pas que ce soit le cas de.
Je pense que c'était le cas. La preuve, il nous a parlé de l'épisode de son mariage.
Et t'as des enfants, Jordan, ou pas?
J'ai pas encore d'enfants, je me marie.
Il l'a peut-être conçu l'année dernière, mais il est pas là encore.
Pourquoi on pourrait pas avoir des enfants avant de se marier?
Bah ouais, non, mais c'est.
Oui, non, on peut avoir des enfants avant de se marier.
Merci, Jordan. Merci pour ton autorisation.
Chacun est comme il est, nous, c'est par étapes.
Du coup, si t'as un mec, tu vas l'appeler comment?
Steven.
Ah bah j'hésite parce que ça peut être un long nom, ça peut être un mélange d'équipes ou non, je plaisante. Non, après nous on a des prénoms, on n'a pas encore décidé, parce qu'on n'y est pas encore. Mais Je partirais pas sur un Jurgen ou un Sadio.
Jurgen, c'est moyen nom anglais, mais ouais, un Steven, ça peut coller.
Et après, Mohamed Jurgen.
Pour rebondir sur ce que vous dites, je pense qu'en France, la première ligue est énormément médiatisée. On la voit à toutes les chaînes. Donc c'est pour ça peut-être
que là-bas, aussi parce que culturellement, le football est très suivi.
On diffuse la première ligue. C'est peut-être aussi pour ça que justement plusieurs personnes comme moi aiment le football. Et après, pour moi, c'est le meilleur championnat au monde.
Ouais, non, mais il y a ça. Il y a le fait que oui, en effet, en France, plus que peut-être qu'ailleurs, on suit beaucoup de pays, du moins de d'autres championnats étrangers. Mais c'est surtout que je suis désolé, mais là, en France, même si c'est le sport numéro un. C'est pas une religion, le football.
Non, mais Daniel a raison.
Vous me parlez. Toi, tu viens du Portugal. Daniel, des origines italiennes. italienne, anglaise.
En France, Jérôme.
Mais alors?
Non, mais ce qu'il veut dire, Daniel, c'est que c'est aussi un héritage familial, que c'est une culture.
Parce que dans ces pays-là, c'est une religion, le football.
Oui, mais non, on n'a pas grandi là-bas.
Vous
n'avez
pas comparé l'Italie.
Oui, mais on n'a pas grandi là-bas, Jérôme.
On a grandi à l'étranger, moi.
On a grandi ici, Jérôme.
Et alors?
Bah, et alors, on devrait être imprégné de la culture à ce niveau-là. On aurait pu être imprégné d'une culture sportive française, enfin, footballistique, du moins. C'est pas le cas.
On peut pas
l'être parce qu'elle n'existe pas, comme
l'a pas en France, mais c'est ce que je te dis. Donc c'est pas une religion. En France, le football, c'est le sport numéro un, mais c'est pas une religion. Voilà. Dire, tu passes pas comme en Italie, comme au Portugal, comme en Espagne.
Il n'y a pas besoin que ce soit une religion.
Mais si.
Jordan, merci d'avoir été avec nous. Plein de bonheur, mon gars,
dans une famille, un club, c'est plus en Italie.
Quand je vois sorti de l'école tous ces mômes avec les sacs Real ou Barça, je dis qu'est-ce qu'ils foutent les pères.
C'est des amoureux du foot.
Mais c'est pas possible.
Mais c'est des amoureux du foot.
C'est peut-être des Espagnols.
Regarde les pères, celui qui se fout foutait, mais pas un club là.
Il s'appelle peut-être pas
Bouli. Mais son cartable Real Madrid.
Tu sais mon fils comment
le père.
Tu sais mon fils comment il s'habillait ce matin?
Non.
Il avait le maillot de Monaco et le short de l'OGC Nice.
Quoi?
Franchement, je l'ai regardé. Je lui ai dit, t'es un vrai footix, mon coco.
Qu'est-ce qu'il foutait?
Tu l'as laissé sortir comme ça, toi?
Mais parce que moi je suis un je lui transmets mon amour du foot.
Il est arrivé d'où ce
champ? Parce que j'étais en vacances à Nice.
Comment ce champ s'est retrouvé chez toi?
Je suis allé
là, s'il y a des supporters de Monaco qui t'écoutent,
je suis allé à la boutique de l'OGC Nice et c'était très content de me recevoir, je peux te dire.
Et t'as croqué le cadeau?
Et non, pas du tout. Et écoute, et
mon fils aurait dû lui apprendre aucun autre maillot que le maillot de la famille, on rentre à la maison.
Aimer les couleurs, et ben il a pris, il adore son club aujourd'hui et c'est pas moi qui lui ai dit, il t'a dit je suis supporter, il a 4 ans et demi, hein. Je suis supporter de l'AS Monaco. Écoute, bah, tant mieux pour lui.
Ouais, mais faut lui enlever le short.
Ouais, mais dans ce cas-là, il y a un truc qui va pas dans l'histoire, non?
J'adore l'AS Monaco, bah, ici, il préfère. Bon, il a intérêt à aimer la Tour Eiffel aussi, mais ça, il le sait. Voilà. Et, il y a qu'un maillot qui rentrera pas à la maison, mais ça, je peux pas le dire.
Julien également, alors, sur Tottenham, mais notamment sur l'incertitude en attaque, Kane ou pas Kane?
Ouais, c'est un des grands débats, effectivement, un des grands points d'interrogation sur ce que va faire Pochettino samedi. Kane, lui, est prêt. Il a dit à Pochettino qu'il était prêt à jouer, qu'il se sentait de jouer, d'être titulaire, même si ça fait quand même 6 semaines qu'il était blessé depuis ce quart de finale aller contre Manchester City dans leur nouveau stade. C'est la question, tout le monde vient avec son avis. Est-ce que tu peux laisser remettre Lucas sur le banc de touche alors que c'est ton héros et que c'est lui qui t'a qualifié pour cette finale? Est-ce que tu peux faire jouer Lucas et Kane ensemble? Mais ça veut dire qui font ensuite enlever un de Eriksen, Ali ou Son. Ça va être compliqué. Pochettino, quand on l'a vu lundi lors de la journée des médias, il nous l'a fait un peu à l'envers en nous disant je sais pas encore quelle est mon équipe, Kane peut être titulaire mais aussi remplaçant ou même pas être sur le banc du tout. Personnellement, je pense que Pochettino sait très bien l'équipe qui va aligner samedi et je pense qu'il ne peut pas se passer de Kane qui est son meilleur joueur, qui est son buteur, qui est son leader sur le terrain, son relais aussi sur la pelouse, et même s'il a pas joué depuis 6 semaines, même si Lucas a été le héros à Amsterdam au match retour, je pense que Lucas va s'asseoir sur le banc, il s'en servira comme un joueur d'impact pour entrer en jeu, et puis Kane sera titulaire.
Tiens, on voit qu'il y a Andrea qui est supporter des Spurs et qui nous a appelé au 32-16. Salut Andrea.
Bonsoir messieurs.
Salut Andrea.
Est-ce que t'es flippé toi par cette incertitude?
Mais comment tu es supporter des Spurs, toi t'es d'où?
En plus avec un prénom italien.
Andrea,
qu'est-ce que c'est que cette histoire encore?
Ah, vas-y, sors-moi que t'es de Turin pour Daniel, ça me fasse rire.
Non, on va soutenir le PSG, le papa a joué pour le PSG, on va rester derrière le PSG quand même.
Ah voilà.
Voilà, quand même, un minimum. Mais concernant ça, très franchement, moi pour moi, Kane, il est au club depuis Mino, le mec il a l'occasion de jouer une finale de Ligue des Champions pour son club. On ne sait pas de quoi l'avenir est fait, s'il sera amené à partir ou pas, mais je ne sais pas si pour lui, il n'aura peut-être pas cette occasion-là qui se représentera du moins de sitôt. Je pense que le mec, il va se donner, même si ça fait 6 semaines qu'il n'a pas joué, il va se donner à 300% et il va tout faire pour apporter un impact dans le jeu et dans ce match, parce qu'il sait combien ça compte pour les supporters. Et puis surtout, au vu du parcours, le fait d'arriver là, c'est quand même assez inespéré au vu des matchs qu'ils ont enchaînés, au vu de la qualification dans les phases de poule. Moi, je pense que le mec, il est remonté à bloc et pour moi, Pochettino n'a pas le choix que de le faire commencer Kane samedi.
Andrea, tu peux nous dire ou pas pourquoi tu es supporter de Tottenham?
Je suis supporter de Tottenham parce que j'étais un grand fan de Robbie Keane étant plus jeune. Et mon père étant Monsieur Ginola, du coup Paris en France et Tottenham en Angleterre.
Ah, voilà. Eh oui, c'est pour ça.
Énorme. Andrea Ginola.
Non, mais il est venu déjà à l'antenne. On a fait un match ensemble.
Bien sûr, Jérôme.
Voilà, je t'embrasse.
Donc au final, moi, l'éducation des footballeurs, des fils de footballeurs, on l'a fait aussi, Daniel, quelque part.
C'est bien.
Non, mais ça veut dire que ton père, il t'a filé. C'est quoi? T'as kiffé quand t'étais petit? C'est lui qui t'a dit? C'est comment?
Pas vraiment. Pour Tottenham, c'est assez particulier parce que étant plus jeune, j'étais à l'école en Angleterre et tous mes copains à l'époque, à l'école, c'était la grosse période d'Arsenal quand j'étais plus jeune, l'époque de Vieira, des Invincibles.
Les Invincibles.
Et je commençais un petit peu à suivre le foot et je me dis, ils sont tous supporters d'Arsenal. Pourquoi je devrais faire comme eux? Pourquoi je devrais être supporter d'Arsenal? Et on m'a dit, les pires rivaux de l'Arsenal à l'époque, on m'a toujours le cas, mais on m'avait dit c'est Tottenham Hotspur. J'ai commencé à suivre Tottenham et puis après j'ai commencé à avoir joué Robbie Keane à l'époque et je suis tombé un petit peu amoureux du club, de l'histoire et j'en suis toujours supporter aujourd'hui. Je vais voir des matchs au parc. Mais malheureusement, il n'y a pas les mêmes frissons que quand
je te confirme.
À White Hart Lane.
Ah ben, t'es allé dans le nouveau là?
Non, j'y suis pas allé encore.
Ton père va bien, la santé, tout ça?
Ça va mieux, ouais. Ça va mieux. S'il fumait un peu moins de cigarettes, ça serait bien, mais sinon, ça va beaucoup mieux.
Il est fumé encore, mais c'est pas possible.
Ouais.
Tant que c'est pas clope. Bon. Merci beaucoup, André, bisous à la famille,
beaucoup,
du coup.
Et bonne finale.
À bientôt, ciao, André.
Merci.
Ciao, André. Julien, on va te libérer aussi. Merci d'avoir été avec nous, mon Julien.
Merci à vous, les gars. À demain.
Bravo, Julien. Et donc, tu vois qui, toi? Donc, Liverpool, t'as dit?
Liverpool, moi, je pense, ouais.
D'accord. Donc,
même si je te l'ai déjà dit, Jérôme, vu les trois miracles qui ont permis à Tottenham d'arriver en finale, tu dis que quelque part, c'est peut-être leur destin de le gagner.
Exactement.
Merci, Julien. Bonne soirée, mon pote.
Tu vas bien.
Merci, les gars. Demain.
Très haut, toi.
Tiens,
très haut.
Demain, 21h, à suivre sur RMC Sport 1, j'ai rencontré un monstre. On sera à J-1 de la finale de la Ligue des Champions. Alors, boulot de toute la rédaction d'RMC Sport sur les derniers mois. Plus d'une cinquantaine de témoignages autour de ceux qui ont rencontré Cristiano Ronaldo et Messi. Radiographie ultra détaillée de leur jeu. Ce sera demain à 21h sur RMC Sport 1. Tiens, écoutez ce petit extrait également. C'est Souleymane Diawara qui explique et qui raconte sa rencontre avec Cristiano Ronaldo. Vous savez, ce fameux tacle à l'époque en Ligue des Champions.
Je l'ai regardé, je lui ai dit une fois, je suis pas ton fils, moi. Je suis pas avec moi. Je lui ai dit ça. Il avait un sourire narquois, il rigolait. Je tacle le ballon, mais j'arrive fort. J'arrive fort, je profite de l'instant. Je peux bien appuyer, tu vois. Parce que j'aurais pu ne pas le tacler.
Allez, ce sera à suivre donc demain à 21h sur RMC Sport 1. J'ai rencontré un monstre, ce sera sur Cristiano Ronaldo et Messi. Les infos du jour dans quelques instants avec Daniel Riolo, avec Jérôme Rotten également. Il y a pas mal de choses, notamment à l'étranger. À tout de suite.
RMC. L'Afterfoot, Nicolas Villas.
En compagnie de Daniel Riolo et de Jérôme Bretagne qui s'affronteront le 10 juin prochain dans le match de l'After. Ce sera au Stade Bauer.
En revanche, Daniel Riolo.
De 20h.
Est-ce qu'elle va avoir lieu?
L'année dernière, t'avais gagné.
Il y a 2 ans.
Alors vous le savez, la draft, elle aura lieu.
Non, c'est il y a 2 ans.
Mais non, l'année dernière, oui.
L'année dernière.
C'est l'année dernière.
C'est l'année dernière. C'est tous les ans.
Ah bon?
Il y a 2 ans, dit Jérôme.
Il y a 2 ans. Ouais.
Non, c'est il y a 2 ans. Voilà.
Il y en a pas eu l'année dernière.
La Coupe du Monde.
Ah oui, c'est
vrai. Ah oui, exact. C'est vrai.
Alors, vous le savez, la draft, enfin, vous le savez pas d'ailleurs, la draft aura lieu à partir du 4 juin. Alors, pour savoir lequel de vous va choisir en premier, on vous a demandé des pronostics pour ce week-end. Et on a envie d'avoir vos pronostics, les gars. Rappel des affiches sur lesquelles vous devez pronostiquer. Attends, je vais rechercher le message. Alors, on commence par Racing 92 La Rochelle. Daniel, tes pronos.
Attends, où est ma feuille? Racing 92 La Rochelle.
Les a,
Racing, hein. Bah non, mais ça y est, tu les as.
Ouais,
tu vas me donner les scores.
France-Chine, match de préparation pour la Coupe du Monde féminine, 3-0 pour la France. Ouais. Wawrinka, Dimitrov, 3-7-1 pour Wawrinka.
Ouais.
New York Red Bulls face au Real Salt Lake, 3-1 pour le New York Red Bulls. L'Asvel face à Nanterre, 90-75 pour l'Asvel. Et puis France-Bolivie, match amical des Bleus ce week-end, 5-0 pour les Bleus. Voici les pronos de Daniel. On vous rappelle, hein. 1 point si vous avez le bon vainqueur, 3 points si vous avez le bon score, et pour les matchs de basket et de rugby, c'est 5 points si vous avez le bon score.
Voilà.
Tes pronos à toi, mon Jérôme.
Ouais.
On va les voir dans quelques instants. Alors, t'as mis également le Racing vainqueur face à La Rochelle, 28-19. Victoire de l'équipe de France féminine face à la Chine de Buzyn. Victoire de Wawrinka face à Dimitrov, 3-7-0. Victoire de New York Red Bulls face au Real Salt Lake, 2-0.
Je me détache facile sur le match des filles.
L'Asvel bat Nanterre, 82-76. Et l'équipe de France bat la Bolivie, 3-0.
Ouais, là-dessus. Pourquoi que vous 3 êtes... Pourquoi tu veux qu'ils gagnent que 3-0? Ils vont leur mettre une danse.
Mais c'est pas le même Daniel Riolo que j'ai. Tu penses qu'ils vont mettre ça va être spectacle à chaque fois l'équipe de France.
Quelques petites infos du jour
match de la Bolivie, alors qu'ils vont en garder un petit peu sous le pied pour les deux matchs de qualif.
Quelques petites infos du jour, les gars. Rennes qui a levé l'option d'achat pour Mbanyang. Voilà, 15 millions d'euros qui reviendront donc au Torino. Voilà, l'international sénégalais qui s'engage jusqu'en 2023.
Ah, mais le Torino, ils s'en sortent bien quand même. Ah non, mais c'est vrai.
Oui, c'est une belle vente.
Ah bah
il a 24 ans. Voilà.
Non, mais après tout le mérite à lui aussi parce qu'il s'est bien adapté.
Franchement, il s'est adapté, il s'est calmé, il y a plus de des fameux débordements qu'on l'avait vu faire partout, là ça va quoi.
Balotelli a pris 4 matchs de suspension par la commission discipline de la Ligue. Explication. Alors, l'arbitre de la rencontre face à Montpellier, Anthony Gauthier, a expliqué dans son rapport qu'il aurait tenu, Balotelli, qu'il a tenu des propos insultants à son encontre à deux reprises. Voilà pourquoi il a pris 4 matchs, Mario Balotelli.
Allez y croire. Hein. Balotelli qui insulte un arbitre, vraiment.
En Italie, l'Inter.
Cette suspension, s'il quitte la Ligue 1, on s'en fout.
Oui, effectivement.
Ah ouais. Mais on la donne comme si on pensait qu'il allait rester.
On sait jamais, hein. À savoir. L'Inter Milan officialise le départ de Spalletti. Voilà, alors ça, on s'en doutait un petit peu. Ça a été annoncé aujourd'hui officiellement par l'Inter.
Il remplace Laurent Blanc?
Non, Conte.
Conte.
Ah, mince. Conte, merde.
Non, ils ont pensé à Blanc, mais au final, ils se sont dit, bon, on va faire Conte. Je sais pas pourquoi, mais bon.
Putain, je l'ai vu sur une liste, sur une short list.
Quoi, des européennes?
Qui?
Laurent Blanc?
Ouais.
Oui, au Havre, mais finalement, ils ont pris le gars.
Il est con celui-là. T'es vraiment débile toi. Cet après-midi, alors vous avez très certainement suivi ça, alors il y a un gros teasing autour de cet événement également. Conférence de presse de Sergio Ramos à Madrid. Alors il y avait des rumeurs annonçant un départ. Cette conférence de presse, qu'est-ce qu'il va nous annoncer? Est-ce qu'il va partir ou pas? Florentino Pérez avait expliqué qu'il avait reçu une offre mirobolante de Chine.
C'est Keda.
Mais qu'il voulait pas s'en aller. Qu'il voulait pas le vendre. Et bien il a annoncé qu'il voulait rester. Je ne veux pas quitter partir du Real Madrid. J'ai toujours dit que je voulais prendre ma retraite ici. Avec le président, nous avons une relation
personnelle. Il a passé un coup de fil à Fred et Fred lui a dit tu restes.
Qui ne s'est jamais disputé avec son père, a dit Ramos, il y a une offre de Chine, je ne mens pas, mais je me sens voulu ici, je n'ai jamais voulu aller en Chine, a-t-il déclaré. Autre petite info qui vient d'Espagne également, c'est le Diario de Sevilla qui nous dit que le Betis a fait une offre pour Adrien Rabiot.
Non.
Eh ouais.
Betis.
J'aime pas Betis pour lui, ce club quoi, c'est vraiment pas assez.
Les mecs, apparemment, ils ont kiffé l'expérience Lo Celso, ils se sont dit tiens,
ils vont même pas faire l'Europa League l'année prochaine, le Betis.
Ça veut pas dire qu'il va y aller, hein.
Pour Rabiot, c'est pas assez bon niveau quand même.
Bah, j'attends une réaction là du clan Rabiot ou de lui.
Ah mais moi
tout de suite pour dire que vous manquez de respect que le Betis c'est quand même pas du niveau.
Non, Jérôme, excuse-moi, c'est beaucoup plus. Moi, je pense que Véro porte plainte.
Ah oui, là,
pas le droit de s'intéresser à lui.
Arrête de sortir des conneries comme ça parce que
je cite le Diario de Séville.
T'es fou, c'est ça, un procès, hein. Moi, la plupart de sa mère, je fais un procès. Comment ce club ose s'intéresser à Rabiot?
Pardon,
non mais ils ont pas fait une offre. C'est sérieux, pas non.
Je sais pas, c'est ce que dit le Diario de Séville.
Non.
Bruno Genesio s'est exprimé.
Insultant, monsieur.
Dans le Progrès. Du coup, je passe à autre chose. Bruno Genesio s'est exprimé dans le Progrès sur l'arrivée de Juninho et de Silvinho à l'OL. Juninho est quelqu'un qui va énormément apporter à Lyon, car il est très intelligent, il connaît bien le club. Je pense qu'on aurait pu être complémentaires et que ça aurait pu m'aider à gérer des situations difficiles que j'ai connues pendant ces 3 ans et demi avec la région.
Là, on a un regret, on a une petite rancœur, là. Ah. Aïe, une petite amertume. Pardon, pas rancœur.
Pourtant, en plus, Bruno a fait le job, quoi. Il a placé son club en Ligue des Champions.
Il a remercié hier Jean-Michel Aulas.
Il l'a qualifié directement. Parce qu'il a appelé Sarri pour faire l'attaque avec Chelsea.
Exactement.
Ça a permis à Chelsea de battre Arsenal. C'était arrangé, ça.
Et puis, j'ai vu tellement de louanges de la part des consultants, certains consultants, des anciens entraîneurs, qui ont un gros poste, qui le félicitent. Et encore une fois, pourquoi vous avez craché sur Genesio? parce que il a mis le club là où il l'a toujours connu,
là où, c'est-à-dire là où je vais être hein, à plus de 20 points du PSG et un peu plus de combien de Lille.
Beaucoup. Ouais, pas loin de 30 quand même.
Mais c'est normal.
30 points du Paris, ouais.
Autre petite info qui concerne la CAN. L'Algérie aujourd'hui a dévoilé les noms des joueurs qui sont appelés. Jamel Belmadi a fait sa liste. Rassemblement le 3 juin prochain à Alger. Il n'y a pas Andy Delors. Alors, il a obtenu son passeport.
Ouais, c'est ça à quoi, là?
Andy Delors. Le truc, c'est que la FIFA doit quand même statuer, savoir si ils acceptent ou pas le changement de nationalité sportive. Il a joué un match avec les U20 de l'équipe de France, mais c'était un match amical. Souvent, quand c'est des matchs,
et si jamais il donne l'autorisation, il y va à la CAN?
Bah non, visiblement, il a déjà fait sa liste. Donc, c'était trop juste.
Ouais, ça sert à rien,
Belmadi,
alors.
Belmadi a préféré faire sa liste.
Tout ce bazar, là, genre, je vais aller jouer et tout, mais
en tout cas,
il a
tweeté,
même pas.
Il a souhaité bon courage au Fennec pour
la CAN. Non, mais ça, il a pas trop souhaité bon courage au Fennec, c'est aucun problème, mais l'autre, il a fait tout le truc pour y aller, il y va pas.
Et bah, au final, comme la FIFA a pas encore statué. Et tiens, interview de Ronaldo Nazario, le Brésilien à AS. Je vous en parlais tout à l'heure. On lui a demandé d'élire les 5 joueurs actuels qu'il aime le plus voir jouer, Ronaldo. Il a déclaré que Messi, bien sûr, a
t'aimes bien, toi, genre de déclat, t'aimes bien ce genre d'interview, là.
Moi, j'adore Ronaldo, moi, surtout.
Oui, non, mais pour moi, c'est vraiment le genre
moi, j'aime
de
bien savoir ce que Ronaldo aime.
Vas-y, alors,
moi, que Ronaldo dise, je kiffe voir ces joueurs-là. Lui, il kiffe voir Messi, il kiffe voir Salah, il kiffe voir Hazard, il kiffe voir Neymar, il kiffe voir Mbappé. Voilà, c'est les 5 qu'il kiffe.
Voilà. Bah, c'est normal.
Il a aussi déclaré qu'il était très étonné de voir Zidane entraîneur, et il a souhaité bonne chance à Raoul, puisque c'est vrai qu'il va prendre la Castilla à partir de la saison prochaine. Il a dit, moi, je voyais plus Raoul entraîneur que Zidane.
Attention, au mois de septembre, il faudra avoir Fred Hermel surveillé parce que avec Raoul derrière Zinedine Zidane, il va vite être sur la sellette. Hein.
Je pense que la Castilla va bien se planter et que ce sera affreux et que Fred Hermel nous le dira souvent.
Je pense, ouais.
S'il peut pas blairer Raoul.
Ah oui, c'est ça. Et là, il va prier, il va aller.
Pas tout ça. Ils ont pas pensé à ça.
Parce qu'avec tiens, et liste. C'est pas bon. Déjà, on peut annoncer un échec.
Liste des 23 de l'Uruguay également pour la Copa América. Il y a Cavani et Suarez. Vous savez qu'il y avait la fameuse polémique en Espagne comme quoi Suarez avait pas joué les derniers matchs, et notamment la finale de Coupe du Roi.
L'Uruguay, c'est toujours les mêmes mecs, de toute façon.
Voilà. Il y a pas vraiment de surprise. Merci beaucoup, Daniel et Jérôme. Merci.
À samedi, un final de Ligue des Champions.
Ouais.
On sera là.
Jérôme Thomas, merci à Quentin Barber
également.
Je serai sur place.
À tous ceux qui nous ont aidés à préparer cette émission. Et puis on vous dit à demain. Bisous.
Allez, bisous. Et puis surtout dimanche soir.
RMC. L'After Foot.